Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui parle de docu, qui parle de cinéma, une sorte d'Inception en version Extra Ball, notre petite récré hors format. On va parler de We Blew It de Jean-Baptiste Torret en compagnie de Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Charline.
Et d'Arnaud Bordas.
Bonjour. Charline, bonjour.
Allez, Nos Ciné Extra Ball, c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors je vais tout de suite ouvrir les guillemets et attribuer cette phrase à celui qui l'a prononcée, à savoir Arnaud Bordas. Il s'agit d'un documentaire du critique Jean-Baptiste Torret sur le rêve américain, le destin du rêve américain, fin de citation. Et il me l'a dit sans hésitation, c'est bien ça Arnaud?
Ouais, tout à fait. Nous on avait un intérêt à aller voir ça quand même, c'est parce que Jean-Baptiste Torret à la base est un critique qui s'est un peu spécialisé justement dans les cinéastes de cette époque, sur le cinéma des années 60, 70... Et il a notamment écrit des bouquins là-dessus. Il a écrit un bouquin notamment sur le film de Zapruder. C'était une réflexion sur l'image à travers ce film de l'assassinat de Kennedy. C'est un critique intéressant, moi je trouve, parce qu'il a une trajectoire intéressante. J'aimais moins ce qu'il faisait à ses débuts. Il était plus dans la tradition interprétative et un peu subjective de la critique française. Et peu à peu, il s'est dirigé vers une approche beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus historique de cette période-là, en tout cas. Et donc, c'est intéressant de voir ce documentaire-là, où effectivement, c'est un gros documentaire, parce que c'est quand même quelque chose qui fait plus de 2h20, ouais, quasiment, je crois, qui a vraisemblablement bénéficié d'un bon budget, parce qu'il y a quand même pas mal de chansons qui ont dû, de standards, qui ont dû coûter un peu d'argent. Le visuel est très soigné, c'est assez joli, c'est même assez bien cadré, c'est vraiment un documentaire élégant, quoi. Et son optique, en fait, c'était de parcourir les États-Unis et d'interroger dans différents endroits, alors autant dans des grandes villes que dans des campagnes ou des anciens sites industriels qui ont sombré, voilà, autant l'Amérique pauvre que l'Amérique aisée, quoi, de rencontrer donc autant ce qu'on appelle des hillbillies, hein, des Américains de l'Amérique profonde, que des gens de la middle class, des citoyens lambda. Que aussi des cinéastes évidemment. Alors il y a un certain nombre de cinéastes comme Bob Rafelson, Michael Mann, Toby Hooper, et j'en passe et des meilleurs.
Ça fait un joli casting.
Voilà, ouais. Et donc avec cette mosaïque de témoignages, il compose peu à peu une sorte de portrait en coupe du rêve américain qui part des années 60, donc, et comment l'espoir qu'a représenté la fin des années 60 et le début des années 70 a abouti au crash libéral des années 80, aux yuppies, tout ça, voilà, au règne de la finance. Aux yuppies, oui. Donc au règne de la finance. Et c'est axé évidemment sur la phrase qui est la première phrase du film de Peter Fonda dans Easy Rider, qui dit à Dennis Hopper, we blew it, quoi, c'est-à-dire on rêvait de tant de choses et on a tout foiré. Donc voilà, c'est un propos intéressant qui bénéficie encore une fois de témoignages de première main. Et en ça, donc ça devrait intéresser, je pense, tous les gens qui s'intéressent, en tout cas, que ça soit au cinéma ou au cinéma américain ou à l'histoire des États-Unis.
Il faut peut-être préciser que donc c'est effectivement plus un documentaire sociopolitique que de cinéma, malgré le fait qu'on y a ce casting qui est mis en avant, hein, parce que voilà, Michael Mann, il y a aussi des réalisateurs comme Jeff Lieberman ou Liebesman, je sais plus, je confonds les deux, Liebesman, voilà, qui est le réalisateur de Survivance, qui est un survival. assez crade dans mon souvenir, quoi, et ce genre de choses.
Paul Schrader,
Bob Rafelson. Le truc, c'est qu'il faut le préciser ça, parce que moi, je m'attendais quand même un peu plus à, honnêtement, et en étant totalement subjectif, je m'attendais un peu plus à un documentaire de cinéma, effectivement, sur, pas forcément sur le nouvel Hollywood, mais sur l'idée, en fait, qu'il y a un certain cinéma qui se faisait à une certaine époque. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'on en arrive à voilà des films comme Avengers ou Star Wars épisode 7. Et non, mais pour ne citer que au hasard.
Voilà. Non, mais apparemment c'était la note, même s'il ne parle pas des années 90, de, ouais. enfin des années 2000-2010, c'était dans la note d'intention de Toré à la base.
Comme ça, il faudra lui poser la question. Le truc, en tout cas, c'est que ce qui est certain. C'est que c'est intéressant de le préciser parce que il faut savoir que c'est pas du Michael Moore le film, c'est-à-dire que c'est pas un film qui va tout droit avec une réponse, un élément de réponse, et en fait qui joue avec le montage en fait des différentes personnes qui sont interviewées, que ce soit à la fois les prolos qu'on voit dans l'Amérique profonde, dans les coins perdus de Californie ou ce genre de choses, comme les vedettes de cinéma ou les stars ou les réalisateurs de cinéma qui sont interviewés, par exemple. Il y a ce personnage moi que j'aime beaucoup au cinéma à la base, qui est un acteur de série B qui s'appelle Fred Williamson, quoi, qui a fait de la blaxploitation dans les années 70, et il apparaît peut-être 3 minutes à l'écran, quoi, 3-4 minutes, timing à vérifier, mais voilà. Et le truc, c'est qu'en gros il parle tout autant de ce que signifiait la blaxploitation à l'époque en une punchline bien sentie que de son cigare et de son image de marque, c'est-à-dire vraiment qu'il ne peut pas en fait montrer son image de marque. Son surnom, c'est The Hammer, le marteau, quoi. Et il ne peut pas en fait se présenter sans son grand cigare. Il explique en fait quel type de cigare il choisit. Donc ça, c'est assez truculent. Tout en précisant que j'allais dire entre lignes, mais même pas vraiment en fait, qu'il vote pour Trump, et il explique exactement pourquoi, quoi. C'est un documentaire qui a été tourné juste avant les résultats de l'élection. Et mine de rien, en fait, c'est un film qui laisse la parole à ces gens aussi je ne sais pas s'il essaye vraiment de l'expliquer, mais en tout cas, il donne des pistes sur les raisons pour lesquelles quelqu'un comme Trump a pu passer, arriver au pouvoir, accéder au pouvoir, quoi. Ce qu'il faut peut-être accepter quand on regarde le film, en fait, c'est que peut-être que, effectivement, le sujet du documentaire, c'était de faire un documentaire sur... le rêve américain, mais à travers le cinéma américain des années 60-70, c'est ce qu'il est devenu. Et que le fait de le faire à cette période charnière en fait, des États-Unis, c'est-à-dire d'arriver en 2016 au moment où il y a l'élection la plus polarisante des États-Unis de ces 30 ou 40 dernières années, j'ai l'impression que l'actualité et la logique sociale en fait, a pris en otage en fait, le sujet du documentaire et l'a fait muter dans cette direction. Quoi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir, parce que mine de rien, on se retrouve avec des Paul Schrader qui parlent un petit peu de cinéma aussi, mais la plupart des cinéastes ne parlent pas du tout de cinéma. Quoi. Et puis t'as des moments truculents. Enfin, encore une fois, le Lee Bessman qui était donc un ancien hippie, explique en gros la logique des hippies qui... Alors bon, on va peut-être pas spoiler, on va laisser le truc.
C'est pas un spoiler, hein.
Non, mais le truc qui est assez drôle en fait, c'est que c'est un type qui explique: moi j'ai été hippie, j'étais dans toutes les causes qui avaient été menées dans les années 70. J'étais à tous les trucs, j'étais au concert des Beatles quand il fallait être au concert des Beatles, j'étais à tel truc.
L'activisme politique aussi.
Ouais, l'activisme, voilà, tu vois. Et c'était très important à l'époque, mais en fait, la vraie raison pour laquelle tout le monde faisait ça, c'était pour tirer des coups. C'était rencontrer des gonzesses, et voilà. Et
en fait, une vraie conscience, quoi, en fait.
Non, mais c'est intéressant parce que ça en dit tellement long sur, effectivement, les hippies qui ont pu devenir des yuppies dans les années 80, ou en tout cas des gens qui ont voté pour Obama ou ce genre de choses, etc., etc., qui est quand même pas le plus à gauche des présidents américains, même si on veut bien nous le faire croire.
T'as un dessinateur du New Yorker là, qui a fait un dessin à l'époque qui date du je sais plus, Woodstock, c'est
fin des années 60.
Ouais, fin des années 60, et donc là, il avait fait un dessin à la fin des années 70, il le montre, et déjà à la fin des années 70, c'était présent, ça.
C'était la réunion des 10 ans.
Voilà, la réunion des 10 ans de Woodstock, pour fêter les 10 ans de Woodstock. Woodstock, et tous les gens qui étaient là, on voit une foule pas possible, ils sont tous en costard cravate avec un cocktail à la main, tout ça quoi, ça a totalement changé. Moi ce que je voulais juste dire aussi, c'est que quand même Toré oblige, et je trouve l'approche intéressante, c'est aussi, même si on ne parle pas que de cinéma dans le truc, c'est quand même un documentaire de cinéphile qui utilise le cinéma pour montrer ce qu'il veut montrer. Pas de manière explicite, et quand je dis documentaire de cinéphile, je pense qu'il y a des gens qui passeront à côté de certaines choses, mais par exemple...
Des non-cinéphiles.
Voilà, des non-cinéphiles.
Il n'y a pas besoin de connaître toute la grammaire pour regarder le
film. Non, pas du tout, mais je pense que ça apporte quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire comment on parle de l'histoire récente des États-Unis en mettant quelque chose qui fonctionne de manière plus subconsciente, peut-être, pour des gens, mais en évoquant des artifices cinématographiques. C'est-à-dire, par exemple, il y a un long passage, à un moment, un dégagement sur... ils rencontrent des vétérans de la guerre du Vietnam qui ont été marqués dans leur chair, et y compris celle de leur famille, par l'agent orange, hein, l'arme chimique qu'ils utilisaient au Vietnam et dont, à l'époque, les autorités niaient l'utilisation, évidemment. Et ce passage est très touchant, parce que c'est des gens brisés, c'est des gens qui ont eu des enfants anormaux, tout ça, c'est horrible. Et il utilise par-dessus un morceau de piano que joue Robert De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. Voilà, alors il n'y a pas marqué en bas de l'écran ce que c'est, mais tout le film, ça fonctionnait comme ça. Il y a aussi, alors Voyage au bout de l'enfer, c'est évidemment une référence, mais il y a un plan final, moi je trouve magnifique, Steph, bon, c'était un peu moins convaincu, je pense, mais il y a un travelling arrière sur une route des États-Unis interminable, qui dure plusieurs minutes, avec la musique par-dessus, et qui est, moi je pense, il faudrait lui poser la question à Toré, mais qui est la reprise du plan final d'un très très beau film du début des années 70, qui est pas très connu, qui s'appelle Electra Glide in Blue, et qui est un film aussi qui parle justement de l'Amérique des années 70, beaucoup mieux d'ailleurs que un classique un peu trop survendu comme Easy Rider, je trouve. Voilà, donc c'est un documentaire d'un cinéphile érudit et qui utilise cette érudition, je pense, pour nourrir la narration de son documentaire.
Et peut-être juste pour faire une note de fin, en fait, il faut peut-être préciser qu'il est possible que les cinéphiles s'y retrouvent quand ils comprennent, parce que par exemple, tu vas avoir un cinéaste on va même pas voir le visage en fait qui est par exemple Larry Cohen, on entend sa voix, et donc en fait en gros il y a le nom qui apparaît, oui, parce qu'on le verra jamais physiquement, mais par contre en fait quand il y a des voix comme ça de personnages, enfin je dis les personnages parce que c'est un peu le terme qu'on utilise dans les documentaires, mais quand il y a des vedettes comme ça qui sont interviewées, des cinéastes, il faut savoir qui c'est, et des fois en fait
on reconnaît la voix de Paul Schrader et il sera inscrit à l'écran qu'une heure après, je crois.
Voilà. Donc pour boucler, en fait, en gros, il faut dire qu'il y a cette approche là et il y a surtout un autre truc, c'est que ceux qui cherchent des vraies réponses à la question d'origine, en fait, je pense, comment dire, peuvent passer leur chemin, parce que c'est pas l'optique du film. L'optique du film, c'est, je pense, c'est vraiment de dresser ce portrait là de la même manière que l'Amérique ne sait même pas vraiment où elle va, en fait. Donc du coup, en fait, le film par moment a ce feeling un peu étrange où on se dit, mais il parle de quoi, il veut aller où, qu'est-ce qu'il fait. Mais le truc, c'est que le voyage vaut le coup, en fait, parce que d'un seul coup, on a quand même des moments assez truculents. On a cité quelques-uns, il y en a d'autres encore dans le film. Pas que truculents, des moments touchants effectivement aussi, qui sont perdus dans une ligne droite qui est peut-être la route 66, en gros, parce que c'est un peu ce qu'il reprend, en fait, c'est un peu le leitmotiv du film. Il roule sur la route 66 qui se termine à Santa Monica, etc., et dont il montre les images aussi, voilà. Donc c'est un film qui est, moi je trouve, inégal dans son approche, mais néanmoins vraiment intéressant, parce qu'il y a beaucoup de moments de vie dedans, quoi.
C'est comme un voyage, hein. c'est comme quand on taille la route, enfin, c'est-à-dire il y a une trajectoire, mais en cours de route on s'arrête, on fait un truc, et puis on repart, voilà.
Un voyage qui s'appelle We Blew It et c'est signé Jean-Baptiste Toré. Notre temps est écoulé. Merci à tous. Merci Arnaud Bordas. Merci Stéphane Moïsakis. Merci à Jules à la technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions. Et on vous dit à très vite. Rosebud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart.
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.